La salle des machines, Mathias Hénard.
Exploration des moteurs, des engrenages de la littérature d'aujourd'hui. Écoutons le concert des bielles de la fiction, les pistons du récit. Tour à tour autrice, traducteur, mais aussi dessinatrice ou scénariste de bande dessinée nous font visiter leur salle des machines, nous ouvrent le capot de leurs livres et nous expliquent comment elles et ils plongent les mains dans le cambouis. De quelle façon on met à la voile, ou même, de temps en temps, à la rame. Comme disait Blaise Cendrars, saveur du paquebot Normandie, je les verrai à l'œuvre dans les fonds, les soutiers, les huileurs, les graisseurs, les mécanos, tous les gars de la machine. Aujourd'hui, c'est Marie-Hélène Lafon qui nous ouvrira sa salle des machines. La sienne et celle de son roman « Histoire du fils », paru chez Buchet-Chastel. Ensuite, nous recevrons Jean Rollin pour « Le pont de Beson » aux éditions POL, un écrivain de marine est toujours chez lui dans la salle des machines. Entre les deux, il sera question de Georges Perec et de sa tentative d'épuisement d'un lieu parisien qui reparaît chez Bourgois. Et nous écouterons le message de Colombe Bonsaine, autrice du roman « Vue mère » aux éditions Zoé, que nous laisserons clore l'émission grâce au transmetteur d'ordre de la salle des machines.
À la fin du journal, j'ai trouvé cette phrase. En écrivant, nous devons choisir notre but.
Oui, c'est-à-dire d'être nous-mêmes.
Vous dites que votre but à vous, c'est de troubler.
Oui, ça, je pense que, enfin, c'est la fonction, me semble-t-il. Enfin, je crois pas être le premier à le dire. D'ailleurs, la fonction, c'est la fonction de l'art. La fonction de l'art, c'est fondamentalement de troubler. C'est pas de dormir, c'est pas de falsifier. C'est de troubler par l'expression d'une vérité, bon, autant qu'elle puisse s'exprimer et autant qu'on la puisse détenir sa vérité à soi. Bon, le journal, c'est fait pour ça. Et il est vrai que il faut faire appel chez l'autre, enfin, le lecteur éventuel, enfin, chez l'autre en général, il faut faire appel à ce qu'il y a en lui de plus authentique. Ce qui aujourd'hui se perd complètement, je veux dire, moi je suis dans une société grimacière et apeurée, qui plus est apeurée. Tout le monde a peur, et tout le monde fait semblant de n'avoir pas peur, et nous sommes là dans une société qui est en train de basculer, à mon grand réjouissement d'ailleurs, mais j'essaye de dire, voilà ce que je suis en train de dire, tout simplement.
Alors Marie-Hélène Lafon, bienvenue. Est-ce que vous reconnaissez cette voix qu'on vient d'entendre au micro d'Alain Weinstein dans une archive de 1993?
À ma grande confusion, j'ai reconnu l'intervieweur, mais je ne reconnais pas l'interviewé, sauf que j'entends une pointe d'accent qui me laisse perplexe.
Il s'agit de Louis Calaferte.
Septentrion. Ah, d'accord.
Du Requiem des Innocents, et qui nous parlait donc du but, hein, qui répondait à cette question, quel est votre but quand vous écrivez et... à cette réponse assez troublante, effectivement, qui est de troubler, et de troubler justement cette société apeurée qui, dit-il, à sa grande joie, est oui. En plein effondrement. Et je voulais revenir un peu, vous poser cette question comme ça, à brûle-pourpoint. Vous, quel serait votre but, s'il y en avait un, si on pouvait répondre à cette question?
Ça serait peut-être de faire rendre tout son jus à la langue. Ça serait peut-être ça, au fond. Mais, à mon sens, c'est à peu près la même chose que ce que dit Louis Calaferte, avec une sorte de rage fervente qu'il a dans ses textes, qu'il a dans sa prose. Il a ça à l'oral aussi. En fait, je crois que je ne l'avais jamais entendu. Vous voyez ? Oui, c'est faire rendre gorge, faire rendre son jus à la langue et peut-être au monde aussi. Peut-être acculer le monde, le mettre en tension. C'est assez énorme. C'est d'un grand orgueil.
Oui, un grand orgueil, mais il faut avoir de grandes prétentions, sans doute, non, pour se lancer dans un projet littéraire. En tout cas, une grande énergie, une force qu'il va falloir ensuite transcrire ou transposer dans les livres.
Il faut avoir du désir, beaucoup de désir, et que ça se croise avec la nécessité pour descendre dans la salle des machines.
Mais tout à fait. Et puisqu'on est dans cette affaire de filiation avec ces auteurs qui nous nourrissent et avec lesquels nous nous composons tous les jours, nous vivons un peu avec eux comme nos morts, nos histoires, nos récits. Et vous avez consacré une anthologie à Flaubert dans cette collection des auteurs de ma vie. Et Flaubert, c'est un peu un espèce de grand soleil fixe. Mais vous, précisément, qu'est-ce qui vous intéressait chez Flaubert ?
Qu'est-ce qui m'a intéressé chez Flaubert ? C'est encore une affaire de langue. C'est le grand travailleur du verbe. C'est le patron des morts. C'est le patron des écrivains morts, Flaubert. Ce qui m'a intéressé chez lui, c'est sa passion au sens christique, mais aussi au sens sensuel, sexuel. Sa passion de la langue, sa passion du verbe, sa manière de fourrager dans le verbe inlassablement. Parce que c'est quand même la grande affaire de sa vie. Donc c'est probablement ça qui m'a happé et que j'ai entendu d'abord dans Un cœur simple. D'abord, c'est cette façon aussi qu'a eu Flaubert, grand bourgeois un peu rassis, un peu assis, d'entendre au plus près les silences d'une félicité dans Un cœur simple, par exemple. Ça, c'est vraiment le miracle de la littérature.
Et bien sûr, ce miracle, alors il est à l'œuvre évidemment dans l'histoire du fils, dans tous vos textes. En plus, par cette puissance, cette volonté de plaisir de la langue, de désir fait mot. Hein. Marie-Hélène Lafon, vous avez grandi dans le Cantal, qui est le décor de la plupart de vos récits, et notamment de cette histoire du fils qui paraît aujourd'hui aux éditions Buchet-Chastel. Entre le Cantal, Paris, le Lot, mais néanmoins il y a ce terrain d'enfance et on a l'impression que c'est un terreau que vous exploitez, comme on creuse la langue, on creuse aussi des souvenirs d'enfance qui viennent peupler toute une littérature depuis vos débuts.
Comme exergue de mon premier livre, j'avais choisi une citation de Bresson. Dans les notes sur le cinématographe, ne glisse pas ailleurs, creuse sur place. Donc, je ne fais que ce que je peux faire, pas forcément ce que je voudrais faire, mais ce que je peux faire, c'est ce que vous dites là, c'est-à-dire m'enfoncer dans ce coin infime et minuscule où le hasard m'a fait naître, le hasard de ma naissance m'a planté là comme un arbre, m'enfoncer dans ce coin infime et perdu, ce coin de pays perdu, et là aussi chercher à en inscrire et en écrire une trace la plus vivace, la plus juste au sens musical du terme, et peut-être au-delà d'ailleurs, parce que ce mot juste a une très belle polysémie, en inscrire la trace la plus vivace, la plus intense, la plus dense qu'il soit. C'est mon travail. C'est mon travail de travailleuse du verbe. J'aime bien dire que je suis une travailleuse du verbe.
Et comment est-ce qu'on passe alors justement du verbe à un récit ? Comment est-ce que se fabrique cette histoire, l'histoire du fils par exemple ? Par où est-ce qu'elle commence ? Par quel mot ? Parce que si c'est du verbe, il faut bien l'attaquer par la pente du langage.
Elle commence par, comme tous mes livres d'ailleurs, tous mes livres commencent par une collision avec le réel. Je suis d'abord happée par le réel. Histoire du fils, c'est une histoire dont j'ai été témoin dans une nébuleuse familiale qui m'est extrêmement proche depuis 4 décennies. J'en ai été témoin en 2012. Ça, c'est la collision du réel, ce que j'appelle la collision avec le réel. L'histoire se déroule sous mes yeux. J'en suis le témoin. J'en suis même le témoin assigné. Parce que on m'invite à en rencontrer les protagonistes, sachant que probablement un jour ou l'autre, j'en ferai un roman. On me le dit d'ailleurs. Vous vous rendez compte ? C'est ce que j'appelle l'assignation. Bon, donc, il y a le choc du réel. Il y a des scènes, il y a des moments, il y a des gestes, par exemple, les poignets et les mains d'un homme que je rencontre qui a 88 ans et qui est à 88 ans sur les traces de son père, à la recherche de son père qui est mort, lequel père j'ai bien connu. Et je reconnais les mains, les gestes du père dans les mains et les gestes du fils. C'est ça la collision avec le réel. Et en même temps, vous voyez, la langue, tout de suite, vient s'enrouler autour, comme la chair autour des os, parce que quand je vois les gestes de cet homme, quand j'entends sa voix, dans laquelle je reconnais les gestes et la voix de feu son père, je sais déjà que il va y avoir une incarnation textuelle avec ses mains, avec les gestes des mains. Vous voyez ? Donc, la langue et le réel ne se séparent pas. Ils sont toujours intriqués et noués. Toujours. Et ensuite, il me faut du temps. Il me faut beaucoup de temps. Vous dites, comment ça se fait ? Moi, j'attends beaucoup. Je rumine beaucoup. J'attends que l'inépuisable réel se décante. Voilà. Se déleste de ce que j'appelle, moi, le trop-plein, qui m'affole complètement. J'ai besoin...
Qu'est-ce qu'il y aurait d'affolant dans le trop-plein ?
Il y a trop de tout. Il y a trop de tout. Moi, je suis incapable, pour l'instant, je suis incapable de tenter de trouver la juste dynamique textuelle si la masse est trop importante. Voilà. Et il faut donc que le réel décante suffisamment et que je commence à sentir qu'une forme se dessine. Quand une forme se dessine, là, j'ai 12 tableaux. Quand j'ai compris que j'allais pouvoir donner une forme dynamique à cette masse phénoménale qui m'était tombée dessus, en 12 tableaux, là, j'ai pu ouvrir le chantier. Vous voyez, mais il y a une sorte de décantation, de rumination, de fermentation qui se produit, qui est longue, ça peut durer des années. Ensuite, seulement, une fois qu'elle s'est produite, et qu'elle s'est faite à mon insu, en quelque sorte, hein, j'en ai été plus ou moins le témoin attentif, tout en étant sur d'autres chantiers, bien sûr. Hein. Une fois que je sens que c'est mûr, en quelque sorte, j'y vais. Je commence à poser du texte sur du papier.
Et pour prendre donc cette histoire du fils, plus précisément, il y a aussi donc le contact de cette énergie avec le temps, son organisation dans le temps. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout, enfin, un peu chronologique. Cette histoire commence en 1908. En tout cas, c'est le premier tableau qu'on en a.
Oui.
Et va durer à peu près un siècle. Oui. Sauf que ces chapitres, ces tableaux, comme vous dites, ne sont pas chronologiques. On peut être surpris par des boucles, justement, dans le temps. Et on a l'impression qu'il y a quand même, dans l'économie du récit, quelque chose qui fabrique un suspense. Ou en tout cas, moi, comme lecteur, c'est comme ça que je le ressens. Alors qu'on pourrait dire que cette histoire pourrait être tout à fait prévisible. Mais vous avez préféré justement laisser ces espaces un peu à l'imagination du lecteur qui s'ouvrent eux-mêmes dans le temps.
Ce que vous dites là, je le constate et je m'en réjouis. Mais j'eusse aimé vous conforter et vous dire que il y avait vraiment stratégie de ma part. Vous avez dit, vous avez préféré. Moi, j'ai pas tellement préféré. Ça se fait en se faisant. Le premier tableau, celui de 1908, a été écrit en dernier. Et les autres tableaux sont venus quasiment dans cet ordre-là, qui est un ordre absolument pas chronologique. Et j'ai bien senti que ça introduisait des lignes de tension, que ça mettait le lecteur au travail, que ça allait travailler le lecteur au corps. C'est ce que vous appelez l'effet de suspense. Dans mon cas, l'effet de suspense... Dans mes précédents livres, il est quand même assez éloigné, on va dire. Ça ne peut pas dire que ça soit mon rôti habituel. Voilà. Et là, en effet, je me rends bien compte que le travail sur la chronologie a cet effet secondaire. Il n'empêche que, quand je dis travail sur la chronologie, c'est présomptueux parce que c'est venu comme ça. J'ai même essayé, figurez-vous, j'ai même essayé de redonner les tableaux dans l'ordre chronologique. J'ai essayé. Ça cassait absolument toute la dynamique. J'aurais dû le savoir à l'avance. Hein. Ça cassait toute la dynamique. C'était impossible. J'ai donc renoué avec l'ordre qui s'était imposé. Et je savais assez tôt quand même, pendant que le chantier se déroulait, enfin pendant que j'étais au travail, je savais que ce premier tableau serait 1908, etc. et qu'il faudrait l'écrire. Mais j'ai retardé le moment de l'écrire. Et je l'ai écrit en dernier, pour le placer en premier.
Donc l'histoire du fils, c'est l'histoire d'un fils qui cherche son père. C'est aussi l'histoire de sa conception, puisque le lecteur en sait au départ bien plus que ce fils lui-même. Et aussi l'histoire des femmes qui l'entourent. Et c'est une histoire extrêmement sensible. Vous avez le don, Marie-Hélène Lafont, de convoquer les sens, les odeurs. Il y a tout un chapitre presque consacré à l'odeur, qui est comme une immense synesthésie où les odeurs se transforment en mots d'une façon presque magique. Et puis il y a aussi ces personnages de femmes, et notamment qui sont toujours à l'inverse de ce que on pourrait imaginer. On pourrait imaginer, par exemple, que Gabriel regretterait, dans une espèce de nostalgie du monde paysan, le fait d'être parti à Paris. En fait, pas du tout.
Pas du tout. Pour elle, c'est la liberté. Elle regrette même de n'y être pas partie plus tôt, puisque elle n'a franchi le pas que au milieu de la trentaine, dans des circonstances amoureuses, au fond. Voilà. C'est une pulsion amoureuse qui l'a poussée à quitter le Cantal où elle vivait d'une manière déjà un peu quand même clandestine et perçue par la Vox Populi comme n'étant pas tout à fait régulière. Et elle a découvert à Paris une liberté énorme qu'elle regrette encore une fois de n'avoir pas embrassée plus tôt. Et Gabriel, de toute façon, est un personnage qui déroute et qui déroutera jusqu'au bout. Au-delà de la mort, elle continuera à dérouter puisque lorsque sa sœur, son beau-frère et son fils iront faire l'inventaire après sa mort de l'appartement qu'elle louait à Paris et liquider au fond l'histoire de Gabriel, ils découvriront chez elle une façon d'être au monde qu'ils n'avaient absolument pas soupçonné et qu'elle n'avait jamais laissé soupçonner. Donc c'est quelqu'un qui échappe toujours, toujours. Et j'aime ces personnages qui échappent. On ne l'attrape pas, on ne la saisit pas.
Oui, des femmes qui, justement, oui. se dérobent,
oui.
hein, finalement.
Oui, oui, oui.
Même c'est elles qui décident, hein, après une scène, justement, d'anthologie qui leur rencontre, où lui, donc, est plus jeune qu'elle, où il est en pyjama, visiblement, sexuellement très ému. Hein, et on a l'impression que c'est elle qui est aux commandes, qui, finalement, choisit tout.
Oui. On a l'impression que c'est elle qui te commande et que c'est elle qui choisit tout. On est dans le milieu des années 20, elle est fille de paysan, elle est devenue infirmière, au fond elle n'aime pas ce métier. Elle a une mince, très très mince marge de liberté. On peine à imaginer aujourd'hui combien les femmes de ce temps et de ce milieu avaient une mince marge de liberté pour inventer leur vie. Elle invente tout de même la sienne, à sa façon. Et cette scène à laquelle vous faites allusion, qui est en effet une scène de rencontre amoureuse en milieu contraint, puisqu'on est à l'infirmerie du lycée de garçons d'Aurillac, hein, en janvier 1920, cette scène va ouvrir dans la vie de Gabrielle des perspectives insoupçonnées qu'elle n'ouvrira pas dans la vie d'ailleurs de Paul, le jeune homme en pyjama, le lycéen en pyjama visiblement sexuellement ému, comme vous l'avez dit. Lui, au fond, invente beaucoup moins. Il invente beaucoup moins. C'est quelqu'un qui reste bien davantage dans la ligne tracée par son père, notamment, dont il va réaliser le désir d'insertion sociale.
Oui, exactement. Et du coup, abandonner, en fait, son enfant sans qu'il le sache.
Voilà, voilà. Pour moi, si vous voulez, le motif, mais saisissant d'emblée de cette histoire lorsque j'en ai été le témoin pendant l'été 2012, c'est que on n'a jamais su si ce père savait qu'il était père, ni même s'il l'avait, enfin, a-t-il su? Cette femme lui a-t-elle dit qu'elle attendait un enfant? On ne le saura jamais. Et c'est tout ce trouble terrible pour l'enfant en question, devenu jeune homme, enfin devenu adolescent et devenu jeune homme, de savoir si c'est un jour ou non inscrit, je ne dirais pas dans le désir d'un père, mais même dans la conscience d'un père. Ça reste et ça restera pour toujours indécidable. Et ça peut faire de la littérature, ça.
L'indécidable fabrique de la littérature.
Bien sûr. Beaucoup plus, en tout cas, probablement beaucoup plus sûrement que ce qui est bien tranché et mis en place et déjà épuisé d'avance, déjà éreinté.
C'est absolument magnifique parce qu'on voit comment, à partir d'une histoire réelle, enfin en tout cas telle qu'elle vous est parvenue, vous fabriquez, vous creusez dans les non-dits, dans les silences. Oui. Et en fait, ce sont vos mots qui habitent ces silences.
Oui. Oui, ce sont mes mots qui habitent ces silences et ce sont aussi des silences qu'avec mes mots je ménage et que les lecteurs habitent. Donc vous voyez le trouble et aussi le lien entre celui qui écrit et celui qui lit, qui toujours, depuis que j'ai publié mon premier livre, à ma grande surprise, à ma grande joie d'ailleurs, lien qui toujours s'instaure et fait que le lecteur est au travail. Je suis au travail dans la salle des machines, mais le lecteur aussi.
Oui, alors on va repartir en 2012. On va se remettre un peu dans ce cimetière, cet homme aux mains, aux poignets et aux os qui vous ont tellement marqué. Donc il était forcément accompagné par sa famille, donc dans cette recherche. Et est-ce que les personnages de femmes sont donc imaginaires? Comment est-ce qu'on parle à la place des morts? Ou comment est-ce qu'on imagine la vie de ces morts?
C'est intéressant ce que vous dites là, parce que je n'y avais pas pensé. Mais en effet, lorsque j'ai été placée en position de témoin de cette histoire, ce sont des hommes, en effet. C'est-à-dire ce fils, devenu lui-même père, grand-père, etc., à la recherche de son propre père, et le fils de ce fils, deux hommes. Et il se trouve, je n'y avais pas réfléchi jusqu'à présent, que le travail d'imaginaire, en ce qui me concerne, je suis sceptique. Je crois que je n'imagine à peu près rien. Je décale, je couds, je découds, je réinvente, je fictionne, mais je n'imagine pas. Mais en tout cas, les femmes, je les ai fait venir d'ailleurs, les femmes. Ça n'est pas tellement cette histoire-là qui m'a fourni les personnages de femmes. Et je crois que les personnages de femmes sont essentiellement la matrice des personnages de femmes, c'est ce couple des deux sœurs. Voilà. Des deux sœurs qui sont à la fois opposées, complémentaires, et qui composent une sorte d'être hybride, très déroutant, éventuellement même pour l'entourage et le reste de la nébuleuse familiale, et en même temps qui en impose à cette nébuleuse familiale, qui leur impose leurs lois. Personne ne conteste l'arrivée d'André et ce que Gabriel demande à sa sœur Hélène, à savoir de lui élever son fils. Personne ne songe à remettre cette loi-là en question. Et c'est la loi des femmes. Et ces femmes-là font la loi, on va dire, comme ça. Il faut dire qu'elles viennent du plateau, hein. Elles viennent du Causs, elles en ont vu d'autres. Donc on ne peut pas leur en faire à croire. Et je crois que cette liberté un peu sauvage, un peu rugueuse des femmes, qui n'apparaît pas chez Hélène, mais qui apparaît chez Gabriel, elle est quand même présente dans un certain nombre de mes livres précédents, et ses couples aussi, de faux jumeaux, mais ses frères noués l'un à l'autre, ses sœurs nouées les unes aux autres. C'est une mythologie que je transporte d'un livre à l'autre. Je sais à peu près pourquoi, mais ça n'est pas du tout intéressant de le dire, ni de le confesser, ni de l'avouer. Mais je vois bien que toujours ça me rattrape.
Vous avez une expression que je trouve magnifique. Vous avez dit « je fictionne sans imaginer ». Comment est-ce qu'on peut fictionner sans l'imaginaire?
On fait comme on peut. Moi, je fais comme je peux. Je crois que de recours à l'imaginaire, le recours à l'imaginaire mais est un luxe que je ne m'autorise pas. Voilà, je dirais ça comme ça. Mais j'en ai pas fini avec cette histoire. Je cherche moi-même, non pas à comprendre, parce que comprendre parfois ça tue les choses, mais je cherche moi-même à trouver une façon de contourner cette affaire-là, pour peut-être ouvrir à mon champ d'écriture des perspectives que je n'avais pas abordées jusque-là. Mais je dis volontiers que je n'invente pas, je réinvente, et que tout tient dans le préfixe, vous voyez.
Oui, je crois. En tout cas, on aura plaisir à vous suivre dans ces nouvelles explorations. Merci Marie-Hélène Lafont. J'en profite pour rappeler que L'Histoire du Fils est paru aux éditions Buchet-Chastel. Un grand merci à vous.
Merci Mathias Sénard.
Parmi les livres qu'on avait oubliés et qu'un éditeur a le bon goût de faire ressurgir à point nommé et pour un prix modeste, se trouve cette tentative d'épuisement d'un lieu parisien, de Georges Perec, que la collection Titres des éditions Christian Bourgois nous fait le bonheur de remettre en circulation ces temps-ci. Génial Georges Perec, mort trop jeune en 1982 à 45 ans seulement. Tentative d'épuisement d'un lieu parisien est écrit en octobre 1974. Pendant 3 jours consécutifs, Georges Perec s'est installé place Saint-Sulpice à Paris. Voici comment il décrit son projet. Il y a beaucoup de choses place Saint-Sulpice. Par exemple, une mairie, un hôtel des finances, un commissariat de police, 3 cafés dont un fait tabac, un cinéma, une église à laquelle ont travaillé Levaux, Gitard, Oppenheur, Servandonis et Chalgrin, et qui est dédiée à un aumônier de Clotaire II, qui fut évêque de Bourges de 624 à 644, et que l'on fête le 17 janvier. Un éditeur, une entreprise de pompes funèbres, une agence de voyage, un arrêt d'autobus, un tailleur, un hôtel, une fontaine que décorent les statues des 4 grands orateurs chrétiens, Bossuet, Fénelon, Fléchier et Massillon, un kiosque à journaux, un marchand d'objets de piété, un parking, un institut de beauté et bien d'autres choses encore. Un grand nombre, sinon la plupart de ces choses, ont été décrites, inventoriées, photographiées, racontées ou recensées. Mon propos dans les pages qui suivent a plutôt été de décrire le reste. Ce que l'on ne note généralement pas, ce qui ne se remarque pas, ce qui n'a pas d'importance. Ce qui se passe quand il ne se passe rien, sinon du temps, des gens, des voitures et des nuages. Et voici un exemple de ce qu'il décrit par la suite. Je cite encore « Pommes de terre en gros ». Une dame menant 3 enfants à l'école, 2 d'entre eux ont de longs bonnets rouges à pompons. Il y a une camionnette de croque-mort devant l'église. Passe un 96. Des gens se rassemblent devant l'église. Rassemblement du convoi. Un 87, un 70, un 63. Rue Bonaparte, une bétonneuse orange. Un chien basset. Un homme à nœud papillon. Un 86. Le vent fait bouger les feuilles des arbres. 1,70. Il est 13h50. Messagerie SNCF. Les gens de l'enterrement sont entrés dans l'église. Passage d'une voiture auto-école, d'un 96, d'un 63. Une camionnette de fleuriste bleue qui va se ranger à côté de la camionnette des pompes funèbres et de laquelle on sort une couronne mortuaire. Avec un magnifique ensemble, les pigeons font le tour de la place et reviennent se poser sur la gouttière de la mairie.
France Culture, la salle des machines, Mathias Sénard.
Jean-Rollin, soyez le bienvenu.
Merci.
Il y a quelque chose du projet de Georges Perec dans vos arpentages, non? Dans des lieux, certes, moins centraux, moins touristiques que la place Saint-Sulpice, mais néanmoins...
Oui, oui, certainement. Enfin, de toute façon, Perec est effectivement un auteur qui a beaucoup compté pour moi. Enfin, quand je dis qu'il a beaucoup compté, qu'il compte toujours beaucoup. Même si l'épuisement, je ne l'ai pas relu depuis un certain temps. J'ai relu les choses, en revanche, tout récemment. Et oui, je partage un peu cette attention à presque rien, aux choses insignifiantes, mais qui ne, je veux dire, ça ne m'amènerait pas à négliger, par exemple, nécessairement la façade de l'église, surtout si elle présente une superposition des 3 ordres. Mais après dire, je m'en souviens plus. À mon avis, oui, je suis très friand de la superposition des 3 ordres. Et de même, les statues, je connais quand même ce passage, et à chaque fois, j'oublie complètement qui sont les 4 gus. Autour de la fontaine, voilà.
Bossuet, etc.
Et voilà, et bon, ça aussi, je le décrirais très volontiers. Moi, je m'attarderais peut-être, parce qu'en plus, je sais plus très bien à quoi, enfin, sait-on vraiment dire à quoi ressemblait Bossuet, et à fortiori, Massillon. Enfin, du coup, peut-être que je m'attacherais aussi à ce genre de choses. Peut-être donc à des choses plus volumineuses et plus monumentales. J'irais moins délibérément vers le plus infime.
Et en tout cas, contrairement à Perec, vous êtes tout sauf immobile.
Oui,
nous avions laissé en Syrie, autour du Crac des Chevaliers, sur les traces de Tilly Laurence, et on vous retrouve en banlieue parisienne.
Oui, bien sûr, oui, mais je ne sais jamais. Enfin, Ce qu'il y a de commun dans ma démarche à travers tel ou tel livre, c'est en effet de me déplacer. Mais pour le reste, je le fais aussi volontiers en Syrie, au Liban, dans le cadre du livre en question, là, le crack, que dans la banlieue. Enfin, c'est pas, je n'établis pas de hiérarchie entre ce qui est proche et ce qui est distant. Mais j'ai besoin, en effet, de me déplacer. Oui, j'ai besoin d'aller d'un... Oui, si. Enfin, mais je peux aussi me coller assez longuement dans la position d'observateur, hein, qui est celle de Pérec, place Saint-Sulpice. Hein, mais pas durablement. Après, il faudra que je bouge un moment ou un autre.
Donc c'est un in octavo à la française, de 240 pages, d'un papier lisse, avec un beau blanc tournant, dont le verso de la première garde et le faux titre sont agrémentés d'une carte du cours de la Seine, sur laquelle 1 cm d'encre vaut 5 cm de fleuve, entre Damary-les-Lys et Mantes. La couverture est d'une carte blanche, immaculée, aux verges profondes et parallèles. En tête, le nom de l'auteur, en gris et en italique, Jean Rollin. En queue, cette figure de go qu'on appelle un co, faite de 7 pierres grises et bleues, qui forment le logo de l'éditeur, dont les initiales sont reprises en dessous, séparées par 2 points, P, O et L, pour le nom de leur fondateur, Paul Tchaïkovski-Laurence, tristement disparu il y a 3 ans. Et au tiers de tête, en bleu lui aussi, le titre, Le Pont de Beson, avec 3 capitales. Jean Rollin, vous êtes l'auteur d'une œuvre importante, une 30aine d'ouvrages, des récits de voyage, des reportages, des romans autobiographiques, comme L'Organisation en 1996, qui vous a valu le prix Médicis, et raconte très ironiquement votre engagement politique au début des années 70, et toute une série d'explorations, par la suite, de rapports d'arpentage, de rivages très divers, mais dont au moins 3 sont consacrés au pourtour de Paris, zone, sur des banlieues qui me paraissent assez proche de celle qu'on traverse dans le pont de Beson, et la clôture consacrée à la ceinture nord de la capitale. Vous revenez donc peut-être dans le pont de Beson aussi sur des territoires que vous aviez déjà explorés par ailleurs.
Oui, ça je le fais assez régulièrement, mais dans le pont de Beson, enfin de toute façon, il y a un certain nombre de lieux que j'ai découverts, hein, à l'occasion de ce travail. Hein. Par exemple, ce lieu assez étrange, là, qui est cette base de communication avec les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, j'avais dû voir au passage déjà ces antennes immenses, mais en me demandant à quoi elles pouvaient servir, mais sans le découvrir. Donc il y a des endroits qui présentent un caractère de nouveauté et d'étrangeté pour moi, mais il y a aussi des endroits que je connais très bien, hein, sur les bords de la Seine, y compris, enfin, que j'ai connu dans des contextes totalement différents, comme l'usine Renault de Flins, comme ceci ou cela, comme bon. Donc il y a une part, bon, de choses déjà bien connues de moi et d'autres qui sont de pure découverte. Et mais par ailleurs, j'ai pas l'impression de revenir, sauf erreur de ma part, j'ai pas l'impression de revenir sur des lieux mentionnés ou dans zone ou dans la clôture. Mais enfin, ça n'a aucune importance d'ailleurs.
Non, mais si par exemple l'explosion de la Durite, on revoit, je suppose que c'est le même endroit où vous allez chercher cette fameuse voiture
congolaise.
Ah oui,
ça d'accord. Oui, parfaitement. Dans l'explosion de la Durite, oui. Oui, oui, bien sûr, oui. Oui, il y a l'endroit à Saint-Denis, où on avait, été en fait, chargé sur un camion. La voiture de seconde main qui devait être acheminée à Anvers être chargée sur un cargo et de là jusqu'à Kinshasa. Oui, c'est exact. Et je retrouve cet endroit, en effet.
Alors, pour moi, il y a un point de mystère dans ce pont de Beson. Je vous pose la question. C'est que vous parlez toujours du projet qui a amené l'écriture de ce livre sans l'expliciter. C'est-à-dire que on referme le livre en se disant, ah oui, effectivement, on voit bien qu'il y a une espèce de symétrie autour de Paris, d'un côté à l'autre, mais on en ignore les limites et le...
Non, mais ça, je l'ai dit dès la première page, si j'ai bonne mémoire. Quasiment, enfin, peut-être pas la première phrase, mais le projet, c'est de décrire de manière aléatoire, c'est-à-dire pas dans l'ordre, Mais en suivant plutôt, d'ailleurs, si, enfin, il y a un ordre chronologique, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement, un cycle des saisons, ça se déroule au fil des saisons, mais on peut, le narrateur retourne sur ses pas, il ne fait pas, ça se passe entre Melun et Mantes, Melun en amont, Mantes en aval, mais dans le désordre, voilà, dans le désordre. Et un désordre tout à fait délibéré, parce que je voulais pas faire ça, comme ça, une descente de la Seine. D'abord parce que je voulais y passer du temps, ça s'étend quand même, en gros, le récit s'étend sur un an, mais c'est en fait des recherches, des explorations auxquelles je me suis livré depuis plusieurs années. Et donc je voulais conserver quand même cette dimension de la durée. Mais donc c'est ça le projet, il n'y en a pas. Alors ça vous paraît peut-être insuffisant, mais c'est ça. Et c'est de décrire, c'est aussi de décrire à travers cette progression sur les berges de la Seine, on découvre évidemment un tas de choses qui disent quelque chose de la société, du monde dans lequel on vit. Autrement, ce serait pas très intéressant. Et il y a une dimension historique, parce qu'elle me paraît inévitable, nécessaire, sur la littérature, la peinture, le 19e siècle, l'impressionnisme, le Maupassant, etc. Mais c'est tout à fait secondaire dans ce livre. C'est tout à fait secondaire. Et même, c'est un peu marginal. Et ce que je m'efforce de faire, c'est plutôt de décrire, décrire l'état actuel de la société, ce serait un peu grandiloquent de ma part, mais je vais en donner une idée, des petites touches qui donnent une idée de du monde dans lequel on vit, que ce soit, les friches industrielles, les usines disparues, celles qui fonctionnent encore, les camps roms, les mosquées, les églises de sectes protestantes, toutes sortes de choses qui présentent quand même un certain caractère de nouveauté. En tout cas, un caractère de nouveauté par rapport au même lieu que j'ai connu dans ma jeunesse. Donc c'est un peu ça qu'il s'agit de d'évoquer. Enfin, c'est pas un peu ça, c'est cela qu'il s'agit d'évoquer.
Jean Rollin, si je posais cette question sur le projet, c'est parce que on se demande, les limites, par exemple, sont a priori arbitraire, ou c'est les pourtours de Paris qui vous intéressent ?
Non, mais c'est par commodité, puisque j'ai fait quand même une allusion à un moment donné, je dis que en ce qui concerne Mantes, c'est la limite d'utilisation du pass Navigo dans cette direction. Alors ça colle pas, ce serait parfait si ça collait aussi pour Melun, mais c'est pas vrai, parce que Melun, on peut aller plus haut, on peut aller jusqu'à Fontainebleau avec le pass Navigo, cette zone. Mais enfin, ce qui compte, donc c'est pas tellement les limites du pass Navigo, parce que j'étais même prêt à acquitter un léger supplément, mais c'est que tous les endroits, en général, je procédais de la manière suivante, je prenais le RER jusqu'à un endroit X, je marchais, si possible, le long de la Seine, ou en tout cas sans trop m'éloigner de la berge de la Seine, et je reprenais le RER dans un endroit Y, voilà. Donc il y a cette caractéristique que c'est toujours des endroits qui sont relativement proches d'une gare de RER. Donc oui, forcément, dans la région parisienne, en dehors du fait que ce que j'évoquais à l'instant là, sur le genre de choses qu'on voit, qu'on découvre dans cette promenade, on les trouve quand même surtout, enfin on les trouve uniquement à la périphérie des grandes villes et plus particulièrement à la périphérie de Paris.
Paris qui est absent d'ailleurs du livre.
Paris
c'est
absent,
très bien marqué.
Oui.
Non, la traversée de Paris, ce sera pour une autre fois. Je crois que vous dites.
Voilà, oui. Non, mais j'ai traversé Paris. En longeant la Seine à plusieurs reprises, je l'ai fait même dans le cadre de ce travail pour m'assurer justement que ça ne collait pas du tout avec ce que je voulais raconter. Donc je ne néglige pas l'intérêt de traverser Paris en suivant les berges de la Seine, mais c'est vrai que c'est tout à fait autre chose. C'est un autre monde, c'est un autre récit, on serait tout à fait obligé de tomber dans quelque chose d'historique et de touristique.
J'ai l'impression que ce qui caractérise les territoires que vous arpentez, c'est justement leur transformation perpétuelle. Un peu comme si c'était un laboratoire du vivant qui se transforme au fur et à mesure. Vous revenez.
Oui, donc on ne le trouverait pas dans Paris intramuros, hein, c'est ça aussi. Il y a des changements dans Paris intramuros, mais pas du même ordre. Là, je dis, par exemple, quelqu'un qui s'intéresserait, moi, c'est sur mon sujet, c'est pas du tout la désindustrialisation, mais le fait est que ça fait partie des choses qu'on rencontre chemin faisant, et c'est un axe comme un autre d'observation de ce phénomène. Et en même temps de ce qui aussi se maintient pour quelque temps encore, puisqu'on trouve quand même encore deux très grosses usines automobiles, une importante usine de fabrication de moteurs d'avion, et ainsi de suite. Quoi. Il y a encore de l'industrie, mais enfin il y en a beaucoup moins que dans les années 60-70.
De l'industrie, mais aussi, vous l'avez cité, la marine, et puis des terrains...
Ah oui, non, mais de tout, bien sûr.
Des territoires qui sont mixtes. Et ce qui vous intéresse vraiment, c'est la berge. Pas tellement l'exploration du fleuve en lui-même, ce que vous avez pu faire par ailleurs dans un de vos premiers textes
sur
les voies d'eau, mais vraiment la berge. Qu'est-ce qu'il y a dans la berge qui vous fascinait au point d'essayer de la arpenter vraiment avec obstination?
Je sais pas ce qui me fascine dans la berge. D'une part, la proximité de l'eau, malgré tout, est importante. C'est vrai que je m'intéresse pas beaucoup au fleuve dans ce livre. Parce que, il y passe des péniches, et puis d'ailleurs plus souvent des convois poussés, désormais, c'est-à-dire des barges avec des pousseurs qui les tirent ou qui les poussent. C'est bien. Je décris d'ailleurs quand même assez précisément le port de Gennevilliers, un peu l'activité du port de Gennevilliers. Mais en dehors de ça, qu'est-ce qu'on peut dire? À moins d'être soi-même dans l'eau, à moins de traverser la France à la nage, comme un de mes collègues des éditions POL, il n'y a pas grand-chose à dire hein, sur le... Si, enfin, on peut dire... il faut y faire quelque chose. Il y a, justement, je mentionnais un des quelques auteurs classique, c'est-à-dire que je cite dans ce livre ces mots passants, parce qu'il est inévitable, comme quand on parle de la Seine, d'une façon générale, il est inévitable quand on parle de la rivière ou du fleuve. Donc bien sûr, on peut faire toutes sortes de choses, y compris partir à la pêche à la ligne, accrocher un cadavre, et ainsi de suite. Enfin, là, je fais allusion à une nouvelle de Maupassant. Bon. Mais moi, je me suis pas intéressé je me suis intéressé en effet à la berge plutôt qu'au fil de l'eau. Hein. D'abord parce qu'il est quand même plus facile de marcher que de nager dans la Seine, en tout cas. Bon, et puis parce que je recherchais en fait. J'ai observé. C'est difficile de se plaindre du fait qu'on aménage les berges de la Seine, puisque je pense que quand même pour la plupart des gens c'est bien de les rendre plus accessibles et donc de les vouer à des usages multiples. Mais moi, évidemment, je préfère les endroits qui ne sont pas encore aménagés, il y en a de moins en moins, et où ça présente, où ça donne en tout cas l'illusion de la sauvagerie. Voilà. Donc j'ai recherché un peu ce genre de choses, et il y a quelques segments qui présentent encore ce caractère un peu sauvage, un peu bordélique, un peu... voilà. Et puis il y en a d'autres... où il y a la piste cyclable, le truc pour le jogging, éventuellement des machins, des accessoires pour faire des mouvements de gymnastique. Enfin bon, moi, évidemment, ça me plaît moins, mais enfin, il faut faire avec, puisque c'est la tendance qui se développe actuellement.
Et comment travaillez-vous? Est-ce que vous êtes comme un impressionniste qui pose son chevalet sur le motif, ou est-ce que vous prenez des notes et vous les écrivez par la suite? Et si c'est le cas, à quoi ressemblent ces notes? Est-ce qu'elles sont comme celles de Pérec, c'est-à-dire des passants 69, 1,92, extrêmement laconiques, ou au contraire, est-ce que vous avez passé du temps à écrire en contemplant tout simplement les reflets sur la Seine et les envols des poules d'eau?
Non, je suis obligé de prendre des notes de toute façon parce que j'ai la mémoire qui flanche et que là, si je ne prends pas de notes très rapidement, si j'attends d'être de retour chez moi le soir ou le lendemain, je risque d'avoir oublié la moitié des choses intéressantes que j'aurais pu voir. Intéressantes de mon point de vue. Et donc je prends des notes, mais ça dépend, parce que je prends pas de notes en marchant, je prends pas de notes non plus. Il y a des endroits, comme je le dis, où c'est pas possible de sous le nez des gens de prendre des notes, parce que, bon, déjà, il y a des endroits où on attire l'attention, inévitablement. Hein, les gens se demandent ce que vous faites là. Et donc, si en plus vous sortez un carnet et que vous vous mettez à prendre des notes, vous passez soit pour un cinglé, soit pour, quelqu'un de dont il y a lieu de se méfier. Enfin, donc, il faut faire un peu attention. Donc, je ne prends pas de notes en toutes circonstances, mais j'ai toujours, bien sûr, un carnet, toujours un feutre, et le plus souvent possible, je prends des notes. Oui. Je prends des notes, mais même parce que la... Oui, pour aussi noter un détail d'un paysage, ça, j'avais oublié. Je fais pas de photos, je fais pas de... ou une répartie, enfin un propos de quelqu'un, ou le numéro d'une rue, ou là c'est celui cet endroit marrant, c'est à Villeneuve-Saint-Georges, cette rue où il y a un kebab halal dans un immeuble où on dit de manière assez vague d'ailleurs que Madame de Sévigné aurait habité entre telle année et telle année. Enfin bon, tout ça, il faut bien le noter sur le motif, autrement on l'oubliera, ne serait-ce qu'on oubliera le numéro de l'immeuble. Alors si des gens ont envie d'y aller voir, autant leur dire précisément où ça se trouve. Hein.
Mais je veux dire, vous n'avez pas eu envie de vous installer dans une cabane de pêcheurs au bord de la Seine pour écrire le pont de Beson, par exemple, ou sous le pont de Beson.
Non, ce que j'ai fait, si vous voulez, c'est j'ai éprouvé en revanche le désir ou le besoin de parfois de passer une nuit dans un hôtel proche de la Seine. Bon, pour par exemple pour puisque je souhaitais, enfin pour ne pas tromper le lecteur sur la marchandise, je dis heureux celui qui a vu le jour se lever sur le pont de Beson. Donc la moindre des choses était quand même que je vois moi-même le jour se lever sur le pont de Beson. Donc j'ai passé une nuit dans un hôtel proche, enfin tout proche du pont, pour voir le jour se lever. Enfin pour voir le jour, pour voir le soleil se coucher, puis le jour se lever le lendemain, etc. Et la nuit s'étendre. Donc quant à une cabane, oui, non mais... Non, j'ai pensé, c'est marrant, un endroit où je trouve qu'il y aurait eu quelque intérêt à planter, non pas une cabane, parce qu'il faut quand même le temps de la construire, mais une tente quechua, cette espèce de lande qui s'étend au pied des immenses antennes de la base de communication avec les sous-marins. Bon. D'abord parce que c'est un endroit mystérieux, c'est un endroit comme j'en ai eu la révélation sur Internet que fréquentent les extraterrestres. Et puis cette lande est superbe, quoi, et un peu inquiétante. Et donc là, oui, je pense que ça m'aurait apporté quelque chose de passer un moment.
Vous êtes aussi un des rares écrivains français, sans doute, capable de faire la différence entre un Sterne arctique et un Pétrel des neiges. Et j'ai l'impression que de plus en plus dans vos livres, les oiseaux ont une présence qui gagne à chaque fois plus. Et même des oiseaux aussi communs que des cygnes, par exemple, dans le pont de Beson, ou des poules d'eau. C'est-à-dire qu'on a l'impression que vous les cherchez, vous essayez de les dénicher, même si ce sont des animaux, pour nous, des plus communs et peut-être des plus, j'ai envie de dire, des plus vulgaires, presque.
Oui. Bien entendu, je suis content, je suis content d'observer dans la région parisienne des oiseaux un peu plus rares ou un peu plus chics, comme en effet la Sterne de Pierre Garin, par exemple, qu'on voit notamment, enfin on la voit dans plusieurs endroits, mais enfin notamment au parc des Chantraines à Gennevilliers. Bon. Mais si vous voulez, autrement, il faut bien dire que le commun, ce qu'on voit généralement, c'est, vous avez mentionné les poules d'eau, mais j'aime beaucoup les poules d'eau, je suis content d'en voir très souvent, les cygnes, les foulques, les corneilles, les pigeons, donc on fait avec ce qu'on a, c'est-à-dire que je décris en effet les oiseaux qui sont à ma portée. Mais je m'efforce aussi, quand je n'ai la possibilité, d'en voir éventuellement de plus rares, comme aussi le piquet-pêche, par exemple, toujours dans ce parc des Chantraines. Oui, et puis les oiseaux qui ont des manifestations saisonnières un peu spectaculaires, comme les alouettes au printemps. Bon, donc je suis content de traverser des champs dans lesquels on voit encore, certes en bien moins grand nombre qu'autrefois, mais où on voit encore des alouettes se livrer à ce vol nuptial qui est très très démonstratif. Oui, je vois bien que ce que j'écris, mais aussi d'ailleurs ma vie quotidienne, je veux dire, est de plus en plus envahie par les oiseaux, c'est exact, oui, mais j'ai toujours eu ce goût, et j'ai pas vraiment de mentalité de collectionneur, c'est-à-dire que je m'en fous un peu qu'ils soient rares ou communs, j'aime bien observer les oiseaux de toute façon, et je sais qu'en toutes circonstances, enfin au moins dans un avenir prévisible, je peux en voir... même dans le square le plus proche de chez moi, vraiment. Et donc j'en profite parce que c'est vrai que c'est un spectacle que j'ai apprécié toute ma vie, mais peut-être encore plus maintenant.
Et d'ailleurs, il y a cette belle synchronie à propos de ce couple de cygnes, enfin ces deux couples de cygnes qui couvent en même temps et dont les œufs éclosent au même moment dans le pont de Besançon, ce qui est aussi, enfin voilà, avec un animal, c'est le vilain petit canard un peu, mais
mais les cygnes, il y en a de plus en plus, sur les cours d'eau et sur les plans d'eau en France. Peut-être même il y en a-t-il un peu trop, je sais pas. Bon, mais en fait, c'est quand même un oiseau. À la fois, c'est un oiseau qui, bon, on soupçonne toujours d'être un peu bête, quoi, mais qui est très décoratif. Et finalement, plutôt sympathique. Et là, il se trouve qu'un peu par hasard, j'étais tombé sur un nid en train de se faire dans l'endroit le plus impropre à la construction d'un nid, au débouché dans la Seine du canal Saint-Denis. Donc, j'avais vu avec quand même un certain scepticisme ce couple de cygnes s'installer là dans un... presque dans une décharge, vraiment, et puis pondre un certain nombre de très gros œufs. Et il se trouve qu'en même temps, une cousine que j'avais perdue de vue, et avec qui j'avais renoué à ce moment-là, observe le même phénomène chez elle, à Villeneuve-le-Roi. Et donc, nous suivons chacun son nid de cygnes et sa couvée de cygnes. Et de manière assez cocasse, quand même, les œufs ont éclos le même jour. Donc, bien entendu, ayant été pondus à la même époque, il était logique qu'ils éclosent à peu près en même temps, mais pas le même jour. Et c'est que le jour où je rentre chez moi, où j'envoie un mail à ma cousine pour lui signaler l'éclosion des œufs du nid de Saint-Denis, ce mail se croise avec un mail qu'elle m'envoyait où elle me signalait la même chose dans son nid à elle, si je puis dire, à Villeneuve-le-Roi. Voilà.
On a l'impression que finalement ce que vous voyez évidemment ressemble à ce que vous êtes, c'est que c'est vos livres qui se fabriquent au moment où vous marchez. Qu'est-ce qui précède avant tout d'abord pour vous? Vous croyez que c'est le livre précède le voyage ou c'est le voyage qui met en route le...
Est-ce que vous pensez que je ressemble à un nid de cygnes?
Non, mais dans la façon dont vous en parlez,
à une nichée, à une couvée de cygnes.
Oui, mais qu'ils se retrouvent tous dans vos livres. On se demande si votre projet, l'arpentage, finalement, vous vous dites, ah, je vais faire un livre qui sera ceci ou cela, ou est-ce que le livre naît justement de l'observation du cygne? Est-ce que vous êtes un promeneur, Jean-Rolin?
Ah oui. Non, oui, je suis définitivement un promeneur. Oui. D'ailleurs, je vous le disais, me semble-t-il, le récit dans ce livre s'inscrit dans les limites d'une année, du mois d'août 2018 au mois d'août 2019, si j'ai bonne mémoire. Mais je veux dire, en vérité, ça fait au moins 4 ans que je me déplace sur les berges de la Seine, en amont, en aval, d'un côté ou de l'autre. Et puis, je l'ai fait à peu près tous les endroits que je décris là-dedans. Je les ai d'abord fréquentés pour mon plaisir. Hein. Pour mon plaisir ou pour... oui, c'est ça, oui. Pour passer le temps, pour changer les idées, comme on dit, pour... voilà, ou pour observer telle ou telle chose, pour... retrouver, par exemple, alors ça c'est des... bon, j'en parle assez peu dans le livre, mais c'est vrai que c'est quand même toujours assez captivant de vous allez au musée d'Orsay, vous voyez un tableau et vous essayez d'aller voir ce qui est devenu l'endroit que Caillebotte ou que Monet ont peint, Argenteuil, à Gennevilliers, etc. Ou Van Gogh, le pont d'Anières, enfin c'est assez fascinant, et d'autant plus que là, enfin, en général, j'aime pas trop, vous voyez, qu'on indique, qu'on mette le nom d'un arbre sur le tronc, je n'aime pas qu'on multiplie comme ça les indications pour le public. Je trouve que c'est un peu découragé les efforts que les gens pourraient faire par eux-mêmes. Mais j'aime assez quand même ils sont d'ailleurs souvent très détériorés, mais sur les berges de la Seine, justement dans Paris, enfin, ou dans les communes limitrophes, les espèces de petits panneaux où on vous signale que le pont a été peint, justement, par Van Gogh, et où on vous met une mauvaise reproduction du tableau de Van Gogh. Ce qui permet de voir dans quelle mesure ça ressemble et dans quelle mesure ça diffère aujourd'hui. Donc ça, c'est oui, des exercices auxquels je me livre volontiers, mais, ou comme aussi aller visiter le cimetière des chiens, à Agnières et y chercher la tombe de Clément, le chien de Houellebecq, oui. Bien sûr, c'est des choses que j'ai fait d'abord pour mon plaisir, oui. Avant d'avoir l'idée de les évoquer dans ce livre. Oui.
pour votre plaisir, mais aussi surtout pour le nôtre, lecteur assidu et passionné de Jean Rollin. Jean Rollin, merci d'être descendu jusqu'à notre salle des machines. Et je rappelle que Le Pont de Beson est paru aux éditions POL.
Merci.
On se souvient qu'autrefois, dans les paquebots et les cargos, de magnifiques transmetteurs d'ordre en cuivre faisaient résonner les instructions de la passerelle jusqu'aux entrailles du navire. Comme chaque semaine en fin d'émission, un message parvient jusqu'à notre salle des machines pour partager une expérience d'écriture. Aujourd'hui, Colombe Bonsen, dont le second roman « Vumère » paraît aux éditions Zoé.
Bonjour, c'est Colombe Bonsen. Suite à votre message et comme convenu par mail, je vous laisse un message. Alors moi, je me suis employée ces dernières années à monter une entreprise fictive, un deuxième roman. Pour ce faire, j'ai engagé une dizaine de personnages et je les ai installés dans un open space. Ces personnages, vous le verrez, sont un peu des clichés volontaires de la vie de bureau, avec à leur tête deux jeunes associés, dynamiques, bien sûr. Le livre se déroule un lundi, avec un enjeu particulier. Lors de la réunion hebdomadaire, un des deux directeurs doit faire état du dossier qui était tenu secret jusque-là et qui s'appelle Vumère. Mais voilà, ce directeur en question est incapable de démarrer et de rejoindre son équipe. En observant ce que génère ou non son absence, je tenais à décrire les mécanismes implacables de l'ordinaire d'une journée de travail contemporaine et tâcher d'en reproduire au plus près les gestes et surtout le langage. Vous savez, ce langage qu'on dit « efficace », dont l'apparente technicité frôle parfois l'abstraction et le rendant autant absurde que poétique. Enfin, on s'en reparle, mais de toute façon, je vous envoie un mail pour vous dire que je vous ai bien laissé un message.
C'était La Salle des Machines, une émission de Mathias Sénard, assistée de Céline Leclerc. À la réalisation, Agnès Catou, et à la prise de son aujourd'hui, Valérie Lavalard. On se retrouve la semaine prochaine, dimanche à 17h, et entre-temps, visitez la salle des machines sur franceculture.fr.